Est-ce parce qu'on a aujourd'hui tant de livres, de journaux, de revues de toutes sortes, sans parler des autres médias? Est-ce pour cela qu'on lit moins la Bible que ne le faisaient nos prédécesseurs protestants? Toujours est-il que notre Église, l'Église protestante unie, a jugé nécessaire de placer au cœur de ses actions, de cette année, le thème « Lire la Bible ». Pourquoi lire la Bible ? Le message délivré à la fin de cet avant-dernier chapitre de l'Évangile de Jean le dit clairement. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Oui, lire la Bible pour croire, pour vivre. Croire, ce n'est pas une finalité en soi. La finalité, c'est vivre. Croire pour vivre. Or, justement, l'épisode raconté ici par Jean mêle intimement croire et vivre, la foi et la vie. Qu'est-ce que croire au sens religieux du terme ? On définit souvent un mot par son contraire. Alors, ce qui vient spontanément à l'esprit, ce serait de dire que le contraire, c'est ne pas croire, être incroyant, être athée. Or, la Bible, et particulièrement le Nouveau Testament, suggère plutôt de définir la foi comme le contraire de la peur. Et cela apparaît presque évident si au lieu d'employer le mot foi, on emploie le mot très voisin, la confiance. Le contraire de la confiance, c'est bien la crainte, c'est bien la peur. Et dans l'épisode, pour ne citer que lui, de la tempête apaisée, Jésus dit à ses disciples, « Pourquoi avez-vous peur ? N'avez-vous point de foi ?» On pourrait relever encore bien d'autres moments semblables. Et nous avons ici, dans l'évangile de Jean, un magnifique exemple de ce passage de la peur à la confiance, à la foi, à la vie. Car, justement, pour ses disciples, au soir de la résurrection de Jésus, c'est la peur qui l'emporte. Au matin de ce jour, dans le récit de notre évangéliste, Marie de Magdala, Pierre et Jean ont vu le tombeau vide. De Jean, il nous est dit, à cet instant, il crut. Et de Marie, nous lisons qu'elle a vu le Seigneur et qu'elle s'est rendue ensuite auprès des autres disciples pour le leur raconter. Cet événement aurait dû, nous semble-t-il, les remplir de joie, de confiance, les faire sortir dans la rue pour répandre à leur tour cette bonne nouvelle. Et c'est le contraire qui se produit. Quand nous retrouvons les disciples, ils sont entre eux. La porte de la maison où ils se trouvent est verrouillée. Ils ont peur. Peur de leur co-religionnaires, peur d'être arrêtés à leur tour et exécutés comme leur seigneur. Et on peut les comprendre. Car ce qui pour eux est palpable à ce moment-là, ce qui les occupe à cet instant, leurs esprits, ce sont bien sûr les derniers événements dont ils ont été les témoins. Des événements tragiques. L'arrestation de Jésus, sa condamnation et sa mise à mort par la crucifixion. Et tout cela est allé extrêmement vite. Depuis ce dimanche des rameaux, où la foule acclamait Jésus, et cela est allé tellement vite qu'ils restent dans l'accablement de la perte de leur maître. Ils sont perdus dans leur nuit. Et cette porte verrouillée est donc bien le symbole d'un enfermement qui n'est pas qu'extérieur. Les disciples sont prisonniers d'eux-mêmes, honteux sans doute d'avoir abandonné Jésus, de ne pas s'être plus battus pour le défendre. Ce sentiment de culpabilité, beaucoup d'entre nous l'ont déjà éprouvé. Ce sentiment qui consiste à penser qu'on n'a pas tout fait quand c'était encore possible. Peut-être les disciples regrettent-ils aussi les 3 années qu'ils ont passées auprès de Jésus. Peut-être se demandent-ils à quoi ça a servi. Coupés à présent dans leur élan vital, ils sont, pour ainsi dire, morts. Pour eux, la pierre de leur angoisse n'est pas encore roulée. Et le récit qu'a fait Marie au retour du tombeau vide a eu bien peu de force face à la mort de Jésus. Seule certitude pour eux à présent, comme si cette mort avait rayé sa vie, rayé toute la richesse de cette vie. Alors la résurrection, quelle résurrection ? Pour eux, il n'en est encore pas question. Comment ne pas les comprendre, ces disciples, apeurés, puisque nous-mêmes, dans une situation bien plus tranquille, nous n'avons pas toujours le courage d'annoncer cette résurrection, de dire clairement ce qui nous fait vivre. Non pas que nos vies soient en danger, mais nous redoutons seulement d'être moqués. Alors ce passage de l'Évangile nous fait du bien pour retrouver sérénité et audace. Car dans cette soirée du dimanche de la Pâque, malgré cette situation oppressante dans laquelle se trouvent les disciples, se profilent déjà les prémices d'un renouveau. Oh, tout d'abord, ce n'est pas grand-chose, mais on peut voir 2 petites notations au début de notre texte. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine. Le soir, chez les Juifs, c'est déjà le jour suivant, car le début du jour est compté à partir de la tombée de la nuit qui précède. Et puis il est dit aussi ce jour qui était le début de la semaine. 2 petites choses, mais on voit bien que cela nous tourne déjà vers l'après, vers quelque chose qui commence. Déjà une page semble se tourner. Une aube nouvelle est peut-être possible. Une promesse se glisse au cœur de la désespérance. Et soudain, Jésus est là. Berger de ses agneaux, il vient chercher ses disciples apeurés. Il aurait pu leur reprocher leur peur, leur lâcheté, leur abandon, leur dire... N'avez-vous rien appris, rien compris ? Non. Il ne vient pas leur faire de reproches. Il leur apporte sa paix, sa grâce, car il sait qu'ils ont besoin d'aide. La paix soit avec vous. Dans notre passage, l'évangéliste souligne les preuves matérielles de la résurrection de Jésus. En ce dimanche soir, comme une semaine plus tard, avec Thomas en plus, Jésus montre à ses disciples ses mains et son côté. Est-il vraiment là en chair et en os? Il est parfois difficile de croire en la résurrection charnelle, comme on peut se demander pourquoi ces 3 jours ont été nécessaires à cette résurrection. Mais ces 3 jours, ne pourraient-ils pas aussi signifié le temps qu'il a fallu aux disciples pour dépasser la sidération dans laquelle les avait plongés la crucifixion. Il a bien fallu 3 jours pour laisser remonter à la surface, si je puis dire, le Christ qu'ils connaissaient, mais qu'ils avaient oublié, aveuglés qu'ils étaient par leur peur. Et tout à coup, la lueur se fait en eux. Ils comprennent le message plus profondément qu'ils ne l'ont jamais compris. Leurs yeux se dessillent et ils voient au-delà de l'immédiat et du visible terrestre. Jésus redevient vivant avec ce qu'il a fait et ce qu'il leur a dit pendant les 3 années de son ministère. Jésus montre ses mains et son côté, les marques des clous. Mais cette preuve matérielle de l'identité du Christ me semble secondaire par rapport aux paroles que prononce Jésus et surtout par rapport à ce mot « paix ». La paix soit avec vous. La paix soit avec vous, c'est une formule presque banale. C'est le shalom des Juifs. Et pourtant, ce sont les mots qui rendent Jésus présent. Ce sont eux qui changent la peur en confiance. Ce sont ceux que le Christ, redevenu vivant pour ses disciples, répète après avoir montré ses mains et son côté. Ce sont eux qui font de la foi. Je me souviens d'un week-end de retraite du conseil presbytéral dont le thème était le culte. C'était déjà il y a pas mal d'années. Et la question à laquelle nous étions invités à réfléchir, c'était « Quel est pour vous, dans le culte, le moment le plus important, le moment le plus précieux ?» Eh bien, pour moi, si j'avais à répondre de nouveau à la question, je crois que je dirais la même chose qu'à ce moment-là, c'est que le moment le plus important, c'est celui du début du culte. C'est ce moment d'accueil, ce cadeau sans condition, renouvelé dimanche après dimanche, quand le Christ nous rejoint, quand il se rend présent et que nous l'affirmons par ses paroles que nous avons redites ce matin encore. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Oui, Jésus est là, parmi nous, dans ce temps qui lui est entièrement consacré, dans ce temps mis à part et dont nous faisons mémoire avec reconnaissance de son évangile. La résurrection est là, dans le retour du Christ vivant pour ses disciples, dans sa présence à leur côté. Et cela n'a rien d'éclatant. Ce n'est pas un Christ en gloire. C'est le Christ né dans une étable, le Christ monté sur un âne. Ce n'est pas la figure triomphante d'un roi. Et pourtant, c'est une soudaine évidence que cette présence fidèle et sûre, présence invisible et pourtant bien réelle à côté de ses disciples, à côté de chacun de nous, à chaque instant de notre vie. Mais ce que nous disent aussi les premières paroles de Jésus ce soir-là, au milieu de ses disciples, c'est que la résurrection, c'est un passage de relais. La résurrection n'existe que par ses témoins. Et pour que les disciples deviennent des témoins, pour que nous le devenions, des témoins devant les autres. Or, cette résurrection ne peut être la nôtre que si nous levons à notre tour. Cette résurrection qui, comme le dit l'étymologie du mot « ressuscité », nous remet debout pour prendre la suite. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Avec la paix du Christ ressuscité, les disciples retrouvent la joie, Ils sont libérés de leur peur, ils retrouvent la confiance et la vie. Le terme qui est utilisé par Jean pour évoquer, si on peut dire matérialiser, ce moment de résurrection des disciples, c'est le mot « souffler ». Il souffla sur eux. Ce souffle, c'est un souffle vital, celui que dans la Genèse, Dieu insuffle dans les narines de glaise de l'être qu'il a façonné. C'est aussi le souffle de l'Esprit Saint qui va les faire marcher dans les pas du Seigneur, être ses témoins et fonder son Église. Création et recréation, résurrection, c'est vraiment ce que vivent les disciples de la toute première Église en recevant le Seigneur. Pour nous, comme pour les premiers disciples, où que nous soyons, quels que soient les murs ou les peurs qui nous enferment, Jésus-Christ peut nous rejoindre. Il nous donne sa paix, il nous offre la vie. C'est un cadeau et c'est une mission. Roulons la pierre de nos enfermements et de nos peurs. Il nous faut être des artisans de paix. Et Jésus nous le promet, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique « Confie à Dieu ta route ». Cantique 4704, il est à la page 732. Nous en chantons les quatre strophes.
Confie à Dieu ta route, Dieu sait ce qu'il te faut.
Je vous invite à rester debout pour confesser ensemble notre foi avec la confession de foi qui se trouve à la fin de votre recueil. C'est la numéro 4. Je crois en Dieu qui a créé le monde pour que nous le cultivions et en célébrions la beauté et la beauté. Il est la source de vie. Je crois en Dieu qui a remis son pouvoir à Jésus le serviteur, mort et ressuscité pour le pardon et la liberté de tous les hommes. Il est le prix de notre vie. Je crois en Dieu qui, par son esprit,